Welcome to the Revolutionary Action Dance Party, produced out of CHSR-FM in Fredericton. I'm Pierre Loisel.
Et je suis Mathieu Bourgeois.
On April 18th, 2001, Michel Chossadovsky spoke in Quebec City. Dr. Chossadovsky is the author of many works, including The Globalization of Poverty and the forthcoming book, War, Globalization, and the New World Order. He is professor of economics at the University of Ottawa. Given in both English and French, his talk is entitled The Quebec Wall, What Lies Behind the FTAA?
Le 18 avril 2001, Michel Chossadovsky s'est présenté à Québec pour donner son discours intitulé The Quebec Wall, What Lies Behind the FTAA? Dr. Chossadovsky est l'auteur de plusieurs publications, dont une bientôt attendue intitulée War, Globalization and a New World Order. Il est présentement basé à l'Université d'Ottawa, où il occupe un poste dans la faculté d'économie. Cette présentation fut donnée en français et en anglais.
Chers amis, dear friends, on se trouve aujourd'hui à un moment historique. Hier après-midi, à la Cour supérieure du Québec, un juge a décidé que oui, le mur de Québec, ce n'est pas le mur de Berlin, va à l'encontre de la Charte des droits et des libertés, mais que dans les circonstances, il est nécessaire de violer la Constitution canadienne. Et par conséquent, la Cour supérieure du Québec a donné un non-lieu à l'injonction qui a été présentée par le Comité de la liberté canadienne et l'avocat Marc Tremblay. We are at a historical juncture because just yesterday, Quebec Superior Court has ruled on an injunction, and the ruling is to the effect that there has been or there is a violation of the Constitution, but under the circumstances, it's all right because of the situation in which we are, and therefore the wall remains. So we're talking about the Quebec Wall. Now, I'd like to, first of all, give you some details about the security operation, although a lot of this material is already well documented. We are certainly facing the most important security operation directed against civilians in North American history. Nous vivons actuellement la plus grande opération militaro-policière à l'endroit des citoyens, avec un budget de 46 millions de dollars. $46 million have been allocated to the expenses of building the wall and bringing in troops from Nova Scotia, 1,200 troops. And that doesn't include all the FBI and CIA agents, which, you know, roaming the city. And incidentally, they have said they're going to do better than in Seattle. We will recall that in Seattle, what was used was essentially the militarized components of the police force, the anti-riot gang squads and SWAT teams. We are going to have a much more sophisticated police operation in this city than has ever been undertaken in North America. Il s'agit de la plus grande opération policière en Amérique du Nord. Les organisateurs ont alloué des sommes de 46 millions de dollars pour l'opération policière. La question entre le fédéral et le provincial, c'est qui va payer la note. Eh bien, on sait maintenant que c'est le fédéral qui va le payer. C'est d'ailleurs la seule préoccupation, d'ailleurs, de la classe politique québécoise, à savoir si cette note de 46 millions allait affecter les objectifs budgétaires du gouvernement, toujours dans la perspective du fameux déficit zéro. Nous savons que les policiers ont été équipés de, non seulement de cette fameuse poivre de Cayenne, mais d'un fusil Arwen 37 qui, avec des munitions, avec des balles de plastique. Donc, lorsqu'on dit des balles de plastique, c'est des balles très, très dures. Et je vais vous citer. According to an RCMP spokesperson, the 6,000 police and security forces on hand are not only equipped with pepper spray, but with the multi-shot Arwen 37 guns, which shoot hard-coated plastic bullets. And I quote from RCMP spokesperson, which says that these plastic bullets, quote, are meant to crack a rib and put them in a lot of pain. Tactical squads are usually required to test such less lethal weapons, such as tasers, which deliver electric shocks on themselves, on the police. But Toronto Police Constable Layton, I guess he's somewhere around, said that it would be too dangerous to do that with the Arwen. And in addition to that, we now know that the Canadian Armed Forces from Nova Scotia have rushed in 1,200 military personnel. What is behind this massive police operation? What is the hidden agenda of this summit? I think we have to understand that this is not a trade deal, okay? This is not a trade deal. In fact, the trade rep for the United States, Mr. Robert Zelnick, is a member of the national security team, very close to Colin Powell's Condoleezza Rice. He was in the national security team in the first Bush administration of Papa. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enjeux ne sont pas des enjeux commerciaux, on le sait déjà. Ce sont des enjeux géopolitiques et stratégiques parce qu'en arrière du projet de libre commerce, il y a un projet qui vise en fin de compte la destruction de nos institutions et en fait de la vie sociale dans les Amériques. Et en même temps, il y a un projet de militarisation des trois continents. Cette militarisation, elle a été d'ailleurs signée lors d'un accord de coopération militaire entre 27 pays. C'est la déclaration de Manaus. Elle est antérieure, elle a été signée au mois d'octobre dernier. Elle n'est pas officiellement à l'ordre du jour de ce sommet, mais elle est bien sûr débattue en coulisses et on sait très bien qu'il y a un lien pratiquement symbiotique entre le libre commerce et les enjeux stratégiques, géopolitiques et militaires. Et nous savons également qu'il s'agit de faire une militarisation, une véritable militarisation du continent sud-américain par l'entremise du plan Colombia. Donc, il ne s'agit pas ici strictement d'un projet de libre-échange, c'est un projet d'hégémonie politique. On pourrait l'appeler par son vrai nom, l'Empire américain. Let us call free trade by its name. This is the American Empire. And those who are negotiating the American Empire behind closed doors are very much linked up to the national security apparatus of the United States. This free trade, so-called free trade agreement, redefines fundamental social relations. It defines a whole social existence of sovereign nations. It is accompanied by the militarization of South America through the Plan Colombia, but it also, in a sense, enshrines fundamental changes into a set of legally binding documents, which are then entrenched in international law. Parce qu'il faut comprendre que les enjeux de l'ASLEA sont des enjeux qui enchassent un certain nombre de changements dans les textes fondamentaux. Les textes fondamentaux, c'est le droit international. Ça ne veut pas dire que ce droit international est nécessairement adopté de manière légitime par les parlements, etc. Bien sûr que non. C'est un accord technique qui est ensuite enchâssé dans le droit international, qui se place maintenant au-dessus de tout. Et comprenez bien que lorsqu'on enchasse certains mécanismes, on crée également les conditions de l'effondrement des institutions. Et un des mécanismes, je n'entrerai pas dans les détails, mais un des mécanismes de cet accord, c'est ce qu'on appelait le traitement national, national treatment. National treatment veut dire que les gouvernements doivent donner les mêmes traitements à des investisseurs étrangers qu'à des investisseurs locaux ou à des producteurs locaux. Mais lorsque vous étendez la définition des investissements à toute activité de la dite société civile, incluant les écoles, les garderies, les centres sportifs, les milieux associatifs, les égouts, l'eau, etc., eh bien, vous engagez un processus qui aboutit à la privatisation de toutes ces activités. Ce que toute activité sera transformée en valeur marchande par le processus d'enchasser ceci dans la constitution, dans une constitution internationale qui sera un accord international qui sera au-dessus des lois. Et alors, si vous regardez ce qui se passe présentement au Québec avec la santé, par exemple, eh bien, la santé est soumise au sous-financement. Eh bien, ce sous-financement, en fin de compte, c'est le préalable à une privatisation, parce qu'en fin de compte, c'est une privatisation de facto qui va s'articuler là-dessus. Mais une fois que l'ASLEA est signée, la santé publique disparaît. Okay? Disparaît. Pas nécessairement du jour au lendemain. Les écoles publiques disparaissent parce que un investisseur qui pourrait venir en chaîne de McDonald's ouvrir des cégeps au Canada dirait, nous voulons les mêmes traitements, les mêmes subventions que vous donnez à vos institutions publiques. Et alors là, on enchaîne un processus de concurrence entre le privé et le public. La même chose pour les garderies. Quelqu'un de l'Arizona viendra et dit, on le fait pas pour 5 piastres, on le fait pour 4,5. Et puis, on a des appels d'offres là-dedans. Donc, il y a un système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est remis en question. Le projet de société dans son ensemble est remis en question. The basic and fundamental mechanism behind this free trade, so-called free trade agreement, or one of them, is the so-called clause on national treatment. What this clause on national treatment implies is that you must give the same rights to a foreign investor as to a local investor. But when you define investment in an all-encompassing fashion to include everything from the financing of Boy Scouts to daycare centers to sports clubs to municipal activities, what do you have? What is the end result of that process? It is the transformation of all those social activities, namely those of the welfare state, into profit-making undertakings. In other words, it is the disappearance and the dismantling of an entire institutional structure. With regard to cities, bear in mind, very important, with regard to cities, what will happen? The same mechanism. We're now living in Quebec under this famous Law 170. In Ontario and other parts of the continent, other processes are ongoing. What do they want to do under Law 170? Qu'est-ce qu'on veut faire avec la loi 170? On veut intégrer l'espace et ensuite on veut privatiser l'espace. The basic and fundamental mechanism behind the free trade agreement is the deregulation and ultimately the privatization of all social services right down to the municipalities. That means that municipalities do not exist anymore. Ça veut dire, par exemple, que la communauté urbaine de Montréal, même avec Pierre Bourque, deviendrait Montréal incorporée. Elle serait gérée par des sociétés privées, peut-être Lavalin, etc. Et ça serait semblable, it would be similar to what we have, what exists in the United States. You might see them in California and Arizona, the so-called gated communities. They wouldn't be gated, but they would be controlled by private corporations, the highways, the inner urban space, the institutions, the school boards would be run by private companies. Bill Gates would set up a network of contracts with schools right through the hemisphere with, you know, with video cameras and so on. In other words, it is the privatization of the welfare state. C'est la privatisation du projet de société. En dessous de ça, si on regarde la situation qui existe en Amérique latine actuellement. L'Amérique latine, c'est-à-dire les 32 pays du continent ou des trois continents, sont soumis à ce qu'on appelle des programmes d'ajustement structurel sous le Fonds monétaire et la Banque mondiale. C'est les mesures draconiennes qui sont imposées depuis au moins une vingtaine d'années, début des années 80. In Latin America, the IMF Structural Adjustment Program has led to devastating economic and social consequences. It is under the jurisdiction of the IMF. We are living in Canada, also a form of structural adjustment, but it is managed and implemented otherwise. It's still under the dominion of creditors. In Quebec, it's under the deficit zero. It consists in destroying social programs. But in Latin America, it has been, of course, much more devastating. And these IMF reforms are imposed in the context of the renegotiation of debt. They are, in other words, they are based on what is called loan agreements. Now, these loan agreements, you sign with the IMF, and the IMF says, you do this, you do that, you close down the schools, privatize, deregulate agriculture, open up your borders, push the interest rates up to 550%. That's what happened to Turkey a few weeks ago. 550%. And the currency collapsed by 45%. Standard of living is cut in half. Now, what happens under the free trade agreement? Under the free trade agreement, IMF medicine becomes permanent. It becomes enshrined. It is not subject to an ad hoc agreement or negotiation with creditors. You understand what that means? In other words, what happens, people from Latin America will understand. You negotiate on an ad hoc basis with the IMF. They set conditions. You can always say, no, we won't do it, and then they cut off the disbursements. But what the FTAA rules will say is that IMF medicine is compulsory, whether you receive money or not. It doesn't matter. You have to follow IMF medicine. In other words, it becomes entrenched, it becomes enshrined. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mesures draconiennes du Fonds monétaire et de la Banque mondiale deviennent maintenant, en quelque sorte, enchâssées. Ça veut dire que le Fonds monétaire, maintenant, on n'a pas besoin, on ne négocie même plus avec le Fonds monétaire. On n'a même pas le droit de négocier avec le diable. Okay? La nuance, si vous voulez, c'est entre le travail forcé et l'esclavage. Countries presently are bonded to their creditors, but they are not enslaved in terms of permanent articles entrenched in international law. That is the fundamental difference. Okay? So that the Latin American countries And our friends from Latin America who are coming and debating, they understand this. They have lived this experience of IMF reforms the last 20 years and the devastation that this has brought. And what is now at stake is to make that medicine absolutely mandatory, irrespective of negotiations. You wouldn't get any money for it, okay? You go to your creditor and say, I want to have a loan. The IMF will say, well, listen, we're not in charge of policy reform anymore. You have to do it irrespective of whether you get the money or not. So that here we have a different level of enforcement. Okay? Sovereignty, la souveraineté des pays d'Amérique latine, des pays en développement en général, est brimée par le Fonds monétaire international. Mais il est brimé dans le cas...